Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue aux archives départementales qui nous font le plaisir de nous accueillir ce soir pour une des conférences que nous présentons donc deux fois par an ici même dans ces lieux, donc les conférences du Centre d'Histoire du Travail. Et celle-ci en fait porte sur une étude que l'on a menée Christophe et moi-même autour du sujet donc qui se présente ici, donc des dactyloïdoses de l'INSEE. Et en fait, cette étude, elle est partie, elle a été initiée en fait par le dépôt des archives syndicales de l'INSEE en octobre 2018, enfin en 2018 plus précisément. Je regarde Francis Judas qui a été à l'origine de ce dépôt des archives au Centre d'Histoire du Travail en 2018 et qui est ici là et qui en fait, avec qui j'ai travaillé pendant. Plusieurs mois au classement de ces archives et qui, au fil de ce classement, en fait, a soufflé l'idée d'un travail à mener sur cette grève méconnue des dactylocodeuses de l'INSEE. Et donc, je ne vais pas en dire plus, je laisse la parole à Christophe pour vous présenter cette grève et si jamais certaines dactylocodeuses ont fait le déplacement ce soir, n'hésitez pas à vous faire connaître pour que l'on puisse eh bien, échanger avec vous. Ça sera un plaisir pour pouvoir approfondir notre étude.
Oui, parce que c'est bien que les intellectuels parlent des grèves ouvrières, mais c'est quand même mieux quand les travailleurs eux-mêmes s'expriment sur les grèves qu'ils ont vécues. De janvier à mars 1981, 48 dactylocodeuses de l'INSEE, travaillant dans les deux ateliers contigus du Centre National d'Exploitation de Nantes, ont mené une lutte, dont bien peu, au sein de l'institution, les pensaient capables. Avec courage, ténacité et au nom d'une dignité retrouvée, ces jeunes femmes, faiblement dotées en capital scolaire, comme disent les sociologues, ont tenu tête à des polytechniciens qui les méprisaient profondément. À l'origine de cette grève de 64 jours, il y a le refus des directions locales et nationales de l'INSEE de prendre en considération leurs plaintes relatives à la détérioration de leurs conditions de travail, puisqu'elles s'échinent depuis peu sur un nouveau matériel informatique qui génère, disent-elles, un surcroît de fatigue. Mais la colère des OS du clavier ne se réduit pas à cela. Alors c'est par une loi de finances du 27 avril 1946 que le gouvernement provisoire, présidé par le socialiste et ancien résistant Félix Seguin, donne naissance à l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques pour la métropole et la France d'outre-mer, c'est le nom complet de l'INSEE. Et cet institut, rattaché au ministère de l'économie nationale, est la fusion du Service national des statistiques créé par le régime de Vichy en 1941, de l'Institut de conjoncture piloté alors par le célèbre Alfred Sauvy, ainsi que des services de la direction du plan et de la documentation du dit ministère. Si l'on en croit le syndicaliste Jean-Luc Heller, que nous avons rencontré et interviewé, et qui lui à l'époque travaille au Centre informatique de Paris, le grand public imagine un organisme peuplé de cadres, d'intellectuels, de polytechniciens, de scientifiques de haut niveau. Il ignore en réalité que les deux tiers des travailleurs de l'INSEE font partie de ce que l'on appelle dans la fonction publique les catégories d'exécution. Recrutés de façon décentralisée par les différentes directions régionales, ce sont des « petits fonctionnaires », entre guillemets, agents de bureau, agents de service, ou bien des vacataires, employés massivement dans le cadre d'une mission, comme par exemple le recensement de la population. Et ce sont des vacataires qui sont très rarement conservés une fois que l'exploitation des données recueillies est terminée. Si les hommes sont hégémoniques dans l'encadrement grand et petit, ou dans les services informatiques alors en plein développement, pour le reste, c'est l'élément féminin qui domine, et les dactylocodeuses en sont l'illustration. Concernant l'encadrement, notez que l'INSEE a longtemps fait appel à d'anciens militaires, incarnation parfaite du petit chef autoritaire et obtus, celui-là même qui fut la cible du courant anti-autoritaire de mai 68. Ce vent de révolte et de remise en question de l'ordre n'a pas épargné l'INSEE. Le syndicaliste Jean-Pierre Bonneau, que nous avons également rencontré, l'explique fort bien. Il est nommé au Centre national d'exploitation de Nantes en 1974, et là, il est plongé dans un milieu où les jeunes sont nombreux et ont plutôt l'esprit contestataire. Dans cette administration où l'on valorise, dit-il, le travail collaboratif, personne ne porte de cravate, y compris chez les cadres supérieurs. Les travailleurs peuvent s'exprimer, quel que soit leur grade, alors que dans d'autres administrations, dit-il, la compétence, c'est le grade. Et un subalterne, bien sûr, ne se permettrait jamais d'intervenir dans une conversation.
Alors pondérons toujours si les programmeurs, les analystes sont écoutés parce que porteurs de savoir-faire importants et nouveaux, les autres le sont beaucoup moins et cette liberté de parole ne touche évidemment pas nos dactylocodeuses. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'une dactylocodeuse ? C'est une dactylographe qui saisit des données, codifie des documents tout au long de la journée. Elles font ce que l'on appelle de la saisie de masse et comme l'indique l'une d'elles, Eliane Chesneau, le travail n'est pas palpitant. Eliane Chesneau ne travaille pas dans l'atelier de saisie du CNE, mais dans un autre service gérant le fichier des entreprises, que vous connaissez de nom certainement, le fichier Sirène. Précision qui a son importance, alors que dans les ateliers de saisie, les petites mains travaillent sur des terminaux à écran de visualisation, les dactylocodeuses du CNE n'ont pas d'écran, mais une petite fenêtre de contrôle indiquant le dernier caractère frappé. La plupart des jeunes filles qui intègrent le CNE au début des années 70 n'ont pas 20 ans, et ont pour seul bagage un CAP sténo-dactylo. Beaucoup ont passé leur scolarité dans le privé, et cette information n'est pas anodine, car la direction locale de l'INSEE considère que les élèves des écoles dites libres ont été a priori moins contaminés que les autres par le souffle contestataire de 68. Elle veut, cette direction, des jeunes femmes sérieuses, appliquées, habituées à être encadrées, bref, dociles et malléables. L'examen d'entrée n'est pas difficile, une dictée pour s'assurer d'une maîtrise de base du français et un exercice de frappe à la machine. L'examen réussi, les jeunes filles sont recrutées comme salariées non titulaires au plus bas échelon, catégorie D, avec possible titularisation au bout de 4 ans si le rendement est bon. Car il faut taper vite et bien, autrement dit sans faute, et il faut faire son rendement si on ne veut pas subir les remontrances, voire se faire limoger. Laurence Leplat et André Renaudat, deux dactylocodeuses, se souviennent ainsi d'un turnover extrêmement important. L'INSEE ne fait pas de sentiment, d'autant plus que le vivier des OS du clavier semble inépuisable. L'encadrement direct est confié à des monitrices, autrement dit à des dactylocodeuses ayant un peu d'ancienneté, dont la fonction est de vérifier si le travail effectué est correct. Les dactylocodeuses travaillent en fait à deux, mais de façon séparée, autrement dit, elles traitent les mêmes données et dès qu'il y a une faute, un signal sonore retentit. C'est donc un système de double saisie qui s'effectue sans écran et dans un environnement extrêmement sonore. La direction de l'atelier est entre les mains d'un ancien militaire qui dit « mes filles » en parlant d'elle et qui fait régner l'ordre jusqu'à la caricature. Interdiction de rire, de lever la tête, de parler, d'aller aux toilettes plus de 3 fois dans la journée et bien sûr d'y aller sans permission. 10 minutes de pause le matin et pas une de plus l'après-midi et pour 1 minute de retard en embauche, récupération de 15 minutes le soir, sans oublier bien sûr, nous disent-elles, les remarques désobligeantes sur la vie privée, intime, de ces jeunes filles, ou encore ses propos racistes. L'atmosphère est donc délétère, Laurence Leplat se souvient de collègues faisant des crises de nerfs, poussées à bout par cet encadrement paternaliste, vexatoire et intrusif. Elle se souvient que, prise à rigoler, le chef lui avait tiré les cheveux pour la rappeler à l'ordre, comme on le ferait à un enfant dissipé. Cette atmosphère a des conséquences sur les relations qu'elle noue. Pour André Renaudat, avant la grève, elle nous dit « il n'y a pas de copinage, on était toutes dans le stress, c'était du chacun pour soi ». Le seul moment de liberté, tout relatif, est le temps du repas, soit 45 minutes, et pas une de plus bien sûr, alors que dans d'autres services de l'INSEE, reconnaît Eliane Chesneau, on est bien moins tatillon sur les horaires. Là encore, pondérons, hein, les filles de la saisie gagnent le restaurant petit groupe par petit groupe. À cette situation d'individualisation dans l'atelier s'ajoute donc une volonté nette d'isoler les dactylocodeuses au sein du bâtiment. Tout est fait, en fait, pour qu'elles ne se mélangent pas. Et les syndicats ont dû se battre et, d'une certaine façon, forcer les portes pour pouvoir distribuer des tracts au sein de cet atelier qui compte une cinquantaine de personnes, 50 à 60 personnes. Un atelier organisé comme une salle de classe avec des monitrices juchées sur des estrades, surveillant des dactylocodeuses en ligne, dont beaucoup ne lèvent pas la tête de leur clavier ou jettent ostensiblement le tract à la poubelle. Il n'est guère étonnant que ces jeunes femmes, sans culture politique ni revendicative, soient si peu présentes lors des mouvements sociaux qui secouent l'institution. Il faut en fait attendre la fin des années 70 pour que 2 ou 3 dactylocodeuses osent se syndiquer, autrement dit défier l'autorité. 3 raisons à cela. Premièrement, les jeunes filles d'hier sont devenues des jeunes femmes qui sont souvent mères de famille. Deuxièmement, la seconde moitié des années 70 est une période fertile en contestation de l'ordre établi et ces jeunes femmes ne peuvent être totalement imperméables à l'esprit du temps. Enfin, au CNE, là où elle travaille, le management a évolué, le petit chef AI a été remplacé et son successeur se contente, nous dit-on, d'appliquer les ordres sans zèle excessif. Ce relâchement dans le contrôle social permet enfin au syndicat de toucher ses travailleuses invisibles et invisibilisées. Alors, à l'origine du conflit, il y a l'arrivée au CNE d'un nouveau matériel proposé par la société Nixdorf. Le progrès technologique met ainsi au rancard le vieux système mis en place depuis 1972, comme il ringardise les écrans de visualisation déjà présents dans quelques services. Comme le soulignent les syndicats lors d'une conférence de presse qui se tient en février 81, les écrans de visualisation servent de moyen de contrôle et leur consultation n'est pas constante. Le système mis en place à Nantes va au-delà. L'écran pilote les opératrices de saisie. Il n'est plus un moyen de contrôle, mais un guide quasi permanent de la saisie. Si le système conduit à un travail moins aveugle, donc plus intéressant, il est aussi plus fatigant. Autre élément à prendre en compte, dans les ateliers dotés d'écrans de visualisation, les codeuses ont obtenu de ne pas travailler à plein temps sur leur écran. Dans le monde à part du CNE, les dactylocodeuses, elles, sont condamnées à s'éreinter les yeux 7 heures par jour sur un écran à cristaux liquides verts qui, inévitablement, provoque des migraines ophtalmiques, mais aussi des problèmes de dos, puis au cou, puisque désormais, elles sont contraintes à une sorte de va-et-vient constant entre la fiche à gérer et l'écran. Pour Eliane Chéneau, les dactylocodeuses étaient habituées à taper en regardant seulement la fiche, assez mécaniquement, en pensant à autre chose. Le nouveau système leur interdit cette possibilité d'évasion psychologique. Toute évolution technologique, vous le savez, bouleverse les façons de faire et perturbe celles et ceux qui doivent s'en accommoder, surtout quand ils n'ont pas eu leur mot à dire. Le progrès, c'est le progrès, et à l'INSEE, dans l'encadrement, rares sont ceux qui se soucient des conséquences physiques et psychologiques de ces évolutions, puisque de toute façon, elles sont inévitables. Les cadres sont persuadés qu'elles vont s'y faire, que ce n'est qu'une question de temps. Les dactylocodeuses, en fait, sont transparentes. Elles n'existent que comme des petites mains qui peuvent avoir leurs humeurs, mais bon, qui rentrent dans le rang dès qu'on les sermonne un peu fort. Parlons maintenant du conflit. Alors, la grève, elle démarre le 7 janvier 1980, mais le mouvement revendicatif est en fait un peu plus ancien. Depuis septembre, en effet, les dactylocodeuses travaillent sur ce nouveau matériel et au bout de quelques semaines, elles se plaignent de ses conséquences sur leur état physique et psychologique. Elles avancent alors une revendication simple, obtenir 45 minutes supplémentaires de pause pour une journée de travail sur écran, ce qui équivaut grosso modo à 10 minutes de pause par heure de travail. La direction de l'INSEE refuse, arguant qu'une note du ministère des Finances de 1977 réglemente le régime des pauses dans les ateliers de saisie comme suit, 30 minutes pour 8 heures de présence. Mais rien ne se passe comme elle le prévoyait. Même si l'on en croit Eliane Chéneau, les filles n'étaient pas trop politisées et avaient été conditionnées à accepter leur situation sociale, l'idée qu'agir collectivement peut améliorer les conditions de travail a fait son chemin. Trois dactylocodeuses ont pris leur carte à la CFDT, c'est Martine et Sylviane, et une à la CGT, mais pas à Force Ouvrière, organisation pour laquelle l'ancien manager, le petit chef Oni, faisait une ardente promotion. Il a dit à l'une d'elles, par exemple, que je n'imprègne pas que vous vous êtes syndiqué ailleurs, comme quoi FO apparaissait comme le syndicat, entre guillemets, maison. Cette revendication d'un temps de pause majoré est portée par les deux syndicats habitués à travailler ensemble à l'échelon local comme national. Les dactylocodeuses se lancent donc dans une grève perlée. Elles lèvent le pied, ce qui fait baisser mécaniquement leur productivité. Or, pour la direction, l'enjeu est important. Nixdorf, c'est l'avenir. Plus des gains de productivité assurés, puisque ce système supprime tout ou partie des postes de vérification. Céder, c'est donc créer un précédent sur lequel pourraient s'appuyer d'autres travailleurs en lutte pour faire reconnaître la pénibilité de leur travail. Or, à l'heure de la rationalisation des procédures de travail et à l'heure des contraintes budgétaires, déjà, le temps des embauches massives est révolu à l'INSEE, il n'est pas question de céder. La direction est par ailleurs persuadée que les dactylocodeuses sont incapables de gestes forts. Taper du poing sur la table suffira à fracturer le mouvement. Ce qu'elle fait d'ailleurs, d'un côté en menaçant de geler la prime de vacances, mais de l'autre en essayant quand même avec Nixdorf de corriger le dispositif, mais bien sûr sans remettre en question la question du rendement exigé. Elle a également un œil sur le calendrier. Les fêtes de Noël approchent et elles sentent globalement que ça devrait mettre un coup d'arrêt définitif à la grogne. Et puis à cela s'ajoute le mépris social. Pour Jean-Luc Heller, syndicaliste, la direction de l'INSEE se compose de technocrates sans expérience de management, ignorant ce que peut être une réaction de dignité. Pour certains, les dactylocodeuses, faiblement dotées en capital scolaire et aisément remplaçables, devraient être déjà fières de travailler dans une administration prestigieuse, au service de l'État, donc du bien commun, et elles devraient se contenter de ce qu'on leur offre. Elles sont tout autant ainsi des cobayes que des pionnières un peu à leur corps défendant. La direction apprend à ses dépens que son entêtement à ne pas négocier galvanise le mouvement au lieu de le briser. Ce 6 janvier 1981, la direction est optimiste. Le mouvement est suspendu depuis le 19 décembre du fait des congés de fin d'année et sa reprise lui apparaît aléatoire. En fait, elle se trompe. Le directeur a commis une imprudence en déclarant en décembre que les dactylocodeuses n'auront jamais assez de cran pour engager une grève. Il a déclaré « Si vous n'êtes pas capable de perdre de l'argent pour vos revendications, c'est que celles-ci ne sont pas légitimes ». Ces mots sont violents et sont perçus comme tels. Une dactylocodeuse interviewée par les Cahiers du féminisme dira « Pour eux, on était des moins que rien ». C'est donc autant contre Nixdorf que contre ce mépris qu'elles vont se battre et que leurs revendications vont aller au-delà du classique marchandage, conditions de travail dégradées contre temps de pause augmenté. En fait, ces OS du clavier ne veulent plus être des OS. Elles revendiquent le droit de s'épanouir autant que faire se peut au travail. Elles savent que dans d'autres services, les codeuses ne sont ni soumises à un haut niveau de rendement, ni astreintes à un travail sur écran durant toute la journée. Elle travaille dans des bureaux de quelques personnes et non en ligne et en rang serré. L'ambiance est donc moins stricte et moins austère. Les dactylocodeuses décident alors de reprendre leur grève perlée. Mais la direction riposte. Elle annonce qu'elle supprimera un 1/30 du salaire mensuel par jour de grève. Les dactylocodeuses ne reculent pas et alors décident de cesser le travail complètement dès le lendemain. Commence alors une grève dont personne n'imagine qu'elle puisse durer plus que quelques jours. Les grévistes ont en effet aucune expérience à faire valoir. Cette grève est une grande première pour elles. Certaines sont mariées à des ouvriers de l'industrie, parfois syndiqués et à l'occasion grévistes, mais cela n'implique pas forcément une solidarité automatique dans le couple. Les machos n'apprécient guère que leur épouse soit moins présente au foyer et passe leur journée au tripode à faire on ne sait quoi avec on ne sait qui. Et parler de pénibilité pour un travail de bureau peut sembler incongru à ceux qui travaillent en 3-8, par exemple, ou portent des charges lourdes. Et puis, dans la France de 1981, avec plus d'un million de chômeurs et la fermeture de pans entiers de l'industrie, un mouvement de fonctionnaires ou considérés comme tels, ayant donc la sécurité de l'emploi, passe mal chez certains travailleurs. Pas chez tous, heureusement, et les nombreuses collectes de solidarité organisées en portent témoignage. Alors, si elles n'ont pas toujours le soutien de leur entourage, elles peuvent compter en revanche sur les syndicats qui, à Nantes comme à Paris, travaillent ensemble, alors que la période est plutôt au règlement de compte. En effet, à la CGT par exemple, le secrétaire général, Georges Segui, va bientôt céder son poste à Henri Krasucki, dont l'esprit d'ouverture est sujet à caution. Localement, la CGT est en crise, puisque deux de ses responsables, les plus importants, ont la tête sur le bio. Il s'agit de Roger Rousselot, un secrétaire de l'Union régionale CGT des Pays de la Loire, et de Jojo Prampart, secrétaire de l'Union départementale. Leur opposition à la ligne Krasucki va bientôt leur coûter leur poste. À la CFDT de Loire-Atlantique, la direction de l'UD s'interroge elle aussi sur l'orientation confédérale et la politique dite de recentrage. En 1980, le secrétaire départemental, Bernard Henry, l'a qualifié d'erratique et confuse dans un courrier qu'il a adressé à Edmond Maire. Donc vous le voyez, en fait, l'unité d'action est facilitée par le tempérament des directions CGT et CFDT locales qui sont portées au travail en commun. Mais elle est aussi au niveau national, puisque CGT et CFDT de l'INSEE travaillent ensemble, nationalement, au point même de faire des listes communes lors des élections professionnelles, les fameuses commissions administratives paritaires. La présence de nombreux militants d'extrême-gauche, trotskistes, maoïstes, etc., dans les rangs de ces syndicats, explique-t-il cela ? Je le pense. Du fait de cette politique d'ouverture, en fait, les deux syndicats nationaux de l'INSEE ne sont d'ailleurs pas en odeur de sainteté dans leurs confédérations respectives. Mais cela ne veut pas dire que l'ambiance est toujours au beau fixe. À Nantes, comme le souligne Yvon Kerhervé, militant CFDT, on travaillait ensemble, on ne passait pas notre temps à nous chamailler ou à s'envoyer des insultes, même si par ailleurs, on ne se disait pas toujours des choses très gentilles. Quant à Force ouvrière, en fait, elle va se tenir à l'écart du mouvement dès le départ, et elle s'en explique d'ailleurs dans un tract diffusé le 18 février. Elle reproche à la CGT et à la CFDT de ne pas l'avoir contactée au début de l'action, d'avoir mal évalué le rapport des forces et d'être immature dans leur mode d'action. On est loin du sérieux, de la gravité et de l'importance qu'on est en mesure de donner à une action de cette ampleur. Et puis elle reproche également, pêle-mêle, l'occupation de la salle machine au sein de l'INSEE, l'occupation du bureau du directeur, et puis même, elle parle de chants séditieux. Je ne sais pas à quoi elle fait référence. Elle juge que la grève a été décidée prématurément, avant même que toutes les possibilités de négociation aient été épuisées. Cependant, évidemment, Force ouvrière souhaite la victoire des dakilo-codeuses et elle les félicite pour leur comportement exemplaire dans la lutte, alors qu'elle aura reproché les journées agitées quelques lignes plus haut. Les dactylocodeuses seront fort mécontentes de ce tract-là. Elle va juger son contenu calomnieux. Elle va apporter son soutien à la CGT et à la CFDT. En mars, tirant le bilan du conflit dans un tract national, FO s'en prendra à l'emprise des gauchistes et notamment des amis d'Alain Krivine, de la LCR. Son emprise des gauchistes sur la CGT et la CFDT, considérant également, et ça c'est important à souligner, que les critiques incessantes que ces organisations portent sur l'INSEE ne peut que nuire à l'image de l'Institut et donc favoriser son éventuel démantèlement à l'heure des compressions budgétaires. Et par démantèlement, FO souligne également qu'il se pourrait que la direction de l'INSEE sous-traite certains travaux. Le syndicat appellera le personnel de l'INSEE à dire non à l'aventure, non à l'agitation permanente, non à la démagogie, non au sabotage de notre outil de travail. Et c'est un discours donc conservateur, et on pourrait dire aujourd'hui corporate, hein. Et bien ce discours conservateur, il va porter ses fruits, puisque Force ouvrière va remporter les élections professionnelles suivantes. Les dactylocodeuses, portées par l'unité syndicale locale, savent donc qu'elles disposent d'un relais unitaire puissant également au niveau national. Jean-Marie Pernaud, qui est ici présent et j'espère qu'il pourra me corriger si je dis des bêtises, Jean-Marie Pernaud, secrétaire national CFDT, descend très régulièrement à Nantes car, dit-il, il a besoin de sentir le terrain, même s'il a un relais local en la personne d'un militant qui s'appelle Jean-Pierre Bonneau. Il a, dit-il, beaucoup de choses à apprendre, de trucs sur lesquels il tenait des discours depuis des années. Il veut penser le monde en partant des pratiques sociales et non des idéologies, et ce conflit lui en offre l'opportunité. Autre dimension importante, l'absence d'entrave au travail syndical dans l'institution. Afin de ne pas être coupés des travailleurs, les syndicats ont décidé qu'il n'y aurait pas de permanents à temps plein, mais seulement des demi-permanents, avec un quota d'heures dédié au travail syndical réduit en conséquence. Mais comme l'INSEE ne contrôle pas les heures passées pour activité syndicale, eh bien les demi-permanents consacrent un temps beaucoup plus important, notamment lors des conflits sociaux, sans craindre les remontrances. Jean-Robert Swesser l'avoue. Il nous a dit « J'avais été affecté dans un service qui s'occupait de l'organisation de la production statistique. Je ne foutais rien, mais j'enrichissais ma réflexion syndicale en discutant avec mes collègues. » Pour Jean-Pierre Bonneau, en fait, cette liberté d'action compense le nombre réduit de syndicalistes très actifs. Comment faire vivre une grève quand les actrices centrales semblent à ce point démunies de ressources militantes? Telle est la question qui se pose aux syndicalistes et qui en entraîne une autre. Qui mène la grève? Les directions syndicales locales, masculines et politisées, comme le sont d'ailleurs les directions nationales, ou bien la base, féminine, imposant son autonomie d'action et échappant à toute instrumentalisation? Et tout d'abord, qui a lancé la grève? Question simple, en apparence, mais à laquelle aucun des acteurs locaux que nous avons interrogés avec Manuela n'a pu répondre avec précision, y compris André Renaudat et Laurence Leplat, deux dactylocodeuses. André Renaudat se souvient que ce sont les deux syndiqués CFDT, Martine et Sylviane, qui ont alerté leur syndicat des difficultés des filles avec Nixdorf, ce qui a entraîné une réunion et l'élaboration d'une pétition réclamant des temps de pause supplémentaires. Mais pour la décision du 7 janvier, elle n'a pas de souvenir, juste une certitude, elle nous a dit « Moi, j'avais rien d'une meneuse en ce début d'année 81 ». Donc c'est pas elle. Ouais. En revanche, pour Francis Judas et Yvon Kerr-Hervé, donc Francis qui était à la CGT et Yvon à la CFDT, ce sont les dactylocodeuses qui ont pris la décision de faire grève, et ce, y compris à leur grande surprise. André et Laurence s'accordent pour affirmer que les deux syndicats ont joué un rôle essentiel dans la bagarre. On était pas mal dirigé par les syndicats, dit Laurence, c'était beaucoup organisé par eux et on suivait les propositions qu'ils faisaient. Eliane Chéneau souligne que les filles n'ont jamais quasiment été seules. Ces témoignages corroborent ce qu'en dit Jean-Marie Pernaud. Le conflit des dactylocodeuses fut un conflit de femmes organisé par des syndicats dirigés par des hommes. Mais, tout au long du conflit, les grévistes furent associés aussi bien au choix des actions à mener qu'aux négociations finales. Et comme l'a dit Jean-Robert Suesser, à propos de ces dernières, ces négociations finales, aucun arrangement de couloir ne peut se dérouler, l'arrangement est forcément public. Chaque jour se tient une assemblée générale au cours de laquelle se décident les actions à mener et les revendications à porter. Car en fait, les jours passants, au fil des discussions entre dactylocodeuses et autres travailleurs de l'INSEE, des désirs naissent. Elles ne se battent pas contre Nixdorf ou contre le progrès. Elles ne veulent pas être vues comme des arriérées effrayées par le changement. Elles veulent en fait trouver du sens à leur travail. Les OS du clavier veulent cesser de l'être. Elles savent ce que certains cadres et personnels de l'INSEE pensent d'elles. Elles sont faiblement qualifiées, professionnellement limitées, incapables de faire autre chose que de la vulgaire saisie. Elles affirment collectivement, en fait, le contraire. Et c'est un pas important qu'elles font, car beaucoup d'entre elles avaient incorporé cette image dépréciative. Alors, pour briser ce destin qu'on veut leur imposer, elles ont multiplié les actions. Parce que l'ennemi de la grève, c'est le désœuvrement. Car s'il n'y a rien à faire, la tentation est forte de rester chez soi. Alors il faut s'occuper les mains, il faut s'occuper l'esprit, il faut mener des actions qui donnent de l'énergie, il faut populariser le combat. Francis Judas le confesse, ce mouvement n'était pas très populaire contrairement aux apparences. Il parlait dans le cadre de l'INSEE, bien sûr. Et certains syndiqués ont d'ailleurs déchiré leurs cartes, considérant peut-être que les dactylocodeuses ne méritaient pas un tel engagement syndical à leur côté. Mais la force d'une grève dépend beaucoup de l'attitude de la direction. Celle de l'INSEE ne comprend pas ce qui se joue. Elle ne comprend pas que des gens aussi peu qualifiés la défient. Et elle aborde le problème avec une rationalité toute technicienne, persuadée que les dactylocodeuses entendront raison si on leur prouve par A plus B qu'elles ont tort. D'où l'organisation, par exemple, fin février, d'une expérimentation qui se tiendra dans des conditions rocambolesques, la plupart des dactylocodeuses refusant de se prêter au jeu. Le témoignage de Pierre Duchesne, qui était cadre à l'INSEE, est ici de première importance. Il est l'un des bras droits de Jean-Marie Caille, chef du Centre national d'exploitation de Nantes. Passionné par son travail, il entend remplir sa mission coûte que coûte, car il est au service de l'État. Cela, nous a-t-il dit, l'a rendu aveugle à certaines réalités. Les syndicalistes le prendront régulièrement pour cible, au point de lui décerner le prix du rond de cuir de l'année en 1980, dans un tract caustique, mais resté, selon Francis, à l'état de projet, les archives en attestent, puisque nous n'avons retrouvé qu'une version manuscrite de ce tract extrêmement vachard, avouons-le. 40 ans après les événements, Pierre Duchesne avoue que ce mouvement a modifié radicalement sa philosophie, au point de reconnaître aujourd'hui que, je cite, « les personnes sont plus importantes que les fonctions techniques. Si les personnes sont armées pour évoluer professionnellement, cela ne peut que bien se passer. À l'époque, je m'en foutais. Je ne pensais pas que la vie personnelle de quelqu'un pouvait avoir un impact sur sa vie professionnelle. Pourtant, Pierre Duchesne connaît l'atelier de saisie, sa configuration de salle de classe, l'estrade qui permet de surveiller les petites mains, le travail qui est effectué, mais cela ne l'interroge pas. Les dactylocodeuses ne sont pour lui que des éléments de production au service d'une fin qui les dépasse. Quand le mouvement s'enclenche, lui qui s'est défini comme un cadre enfermé dans sa technique, se souvient avoir tenu un discours aussi enflammé que déconnecté de la réalité sur la grandeur du travail devant une poignée de dactylocodeuses, essentiellement des monitrices, qui ne voulaient pas suivre le mouvement de grève. Il est encore en première ligne pour empêcher une nouvelle intrusion des grévistes dans la salle des machines. J'avais fait mettre des gros colis de papier imprimante afin de bloquer les portes. Des cadres avaient bien voulu me suivre, on recevait un repas amélioré et on faisait tourner l'ordinateur. En fait, la salle des machines, des ordinateurs, était devenue le fort Alamo de l'INSEE. Les dactylocodeuses se confrontent donc à un mur. Sourds à leurs demandes, sans culture de la négociation, n'ayant qu'une approche technicienne et rationnelle des problèmes, alors que ce qui se joue sous leurs yeux, est un combat pour la dignité et le respect. Pour le syndicaliste Jean-Robert Sweisser, il y a une incompréhension évidente entre une direction qui veut prendre au sérieux le sujet en proposant la tenue de tests d'évaluation et les filles qui veulent gagner leurs 45 minutes parce que Nixdorf a eu un impact négatif sur leur santé. Négligées, méprisées depuis leur arrivée à l'INSEE, les dactylocodeuses en lutte n'ont pas envie qu'on leur prouve scientifiquement qu'elles ont tort, que leur ressenti n'est lié qu'à un défaut de formation initiale et à un logiciel encore perfectible. Qu'en somme, il faudrait laisser du temps au temps et retourner au turbin. Elles n'ont pas plus envie que le conflit s'élargisse à tout l'INSEE. Elles sont en lutte parce que leur poste de travail est plus dur que celui de leurs collègues et que cette situation est renforcée par l'introduction du nouveau matériel. Généraliser le conflit affaiblirait cet argument. Et en fait, les syndicalistes partagent cette analyse, tout comme les militants d'extrême-gauche engagés dans la lutte. Pour Jean-Pierre Bonneau, l'élargissement, il est voué à l'échec. Les conditions de travail globalement à l'INSEE, nous dit-il, ne sont pas mauvaises. Les salaires suivent l'inflation, les évolutions de carrière sont possibles, car les effectifs sont encore jeunes, ce qui fait que nous n'allions pas étendre la lutte pour le plaisir. Les chances d'entraîner d'autres travailleurs et travailleuses de l'INSEE dans un conflit sur les conditions de travail sont donc faibles. Et d'ailleurs, les fonctionnaires de l'INSEE s'intéressent globalement peu à la lutte, même s'il leur arrive de la soutenir financièrement. Globalement, ce conflit, c'est pas le leur. Les semaines passent, les dactylocodeuses découvrent alors que l'INSEE ne souffrent pas de leur absence au travail alors qu'on leur serinait que leur labeur était indispensable à la vie de la nation. Les directions, locales comme nationales, découvrent avec tout autant de surprise que les OS du clavier sont d'une incroyable ténacité. Elles sont 48 en grève depuis le premier jour. Celles qui ne veulent pas suivre le mouvement se sont mises en arrêt maladie. Quant aux monitrices, les syndicats leur ont fait comprendre qu'elles avaient intérêt à la neutralité. Alors, par petits groupes, les grévistes sortent de l'INSEE pour parler de leur lutte, pour réaliser des collectes aux portes des entreprises nantaises et participer à d'autres réunions syndicales. Elles sont 48 et rien ne les effraie. Ni les sanctions qui pleuvent sur elles, ainsi que sur les syndicalistes impliqués dans l'occupation de la fameuse sale machine que Pierre Duchesne a bunkérisée. Ni le fameux rapport consécutif à l'expérimentation de la fin février, rapport qui conclut que le temps de pause réclamé ne se justifie pas, hormis pour le traitement des fichiers des Français nés à l'étranger, car l'orthographe des noms réclame une plus forte concentration. Ce rapport est bien évidemment rejeté par les syndicalistes comme par les dactylocodeuses qui remettent le 9 mars des contre-propositions à la direction locale. La grève entame son troisième mois et le premier tour des élections présidentielles est fixé au 26 avril. Jean-Robert Sweisser est optimiste. Les filles tiennent, la presse parle du mouvement, la solidarité financière met du beurre dans les épinards et les élections approchent. Or, l'INSEE, c'est les fichiers électoraux, c'est important. Il nous dit « On ne sait pas si on va gagner, mais on sait qu'on peut tenir ». Jean-Pierre Bonneau est optimiste. Le temps presse, la direction ne peut plus jouer la carte du pourrissement, car l'atelier de saisie est indispensable au bon fonctionnement de l'INSEE du fait des élections. Elle doit trouver une porte de sortie, évidemment sans perdre la face. Jean-Luc Heller est également optimiste. Il a confiance dans la ténacité des filles, leurs revendications sont de bon sens et l'atmosphère revendicative générale pousse à l'optimisme. Bon, il fallait bien quelqu'un qui fasse la tête. Francis Judas est un peu moins optimiste car il sent, lui, que les filles sont prêtes à lâcher, qu'elles sont fatiguées par deux mois de grève qui n'ont abouti à rien de concret. Mais il a conscience également que la direction locale est sous pression, que la direction générale a peur d'une extension aux autres ateliers de saisie et donc qu'elle a tout intérêt à pousser à la résolution du dit conflit. Le 10 mars, en fin de soirée, le secrétaire général et numéro 2 de l'INSEE, Raymond Lévy-Brulle, accepte de recevoir le lendemain une délégation de 10 personnes. 6 dactylocodeuses et 4 syndicalistes, 2 CGT et 2 CFDT, duo, composé d'un responsable local et d'un responsable national. Ces 10 personnes vont batailler pendant 7 heures pour obtenir, après 64 jours de lutte, le compromis suivant. 25 minutes de pause supplémentaire sur la journée, suppression de tout contrôle automatique des rendements individuels, indemnisation de 21 jours de grève, instauration d'une heure par jour de travail sans écran, amélioration des conditions de travail, autrement dit, travail en bureau à petit effectif et non plus dans la grande salle à la queue leu-leu. même si certaines de ces dispositions sont appelées à être renégociées dans quelques mois, les dactylocodeuses viennent de remporter une grande victoire à leurs yeux. Victoire contre leur employeur, mais pas seulement. C'est une victoire contre elles-mêmes qu'elles ont gagnée. Habituées à obéir, rien ne les prédisposait à ruer dans les brancards au-delà de quelques jours. Or, elles ont tenu. Alors la peur de rentrer tête basse dans leur atelier, la peur de se faire humilier par l'encadrement immédiat ont sans doute joué un rôle dans leur entêtement. Pour André Renaudat, on a gagné le respect. Cette victoire ne fera cependant pas d'elle des syndicalistes de premier plan. Très peu se syndiqueront et prendront des mandats syndicaux. En revanche, les camarades syndicalistes nous ont dit que dorénavant, elles participeront de façon un peu plus régulière et massive aux débrayages et grèves qui vont secouer l'INSEE. C'est aussi une victoire contre leurs proches. Si certains conjoints les ont épaulés, d'autres n'ont guère apprécié de les voir se lancer dans un tel combat. Et cela n'a évidemment rien à voir avec les problèmes financiers éventuels découlant d'un conflit dont on ne connaît par principe pas l'issue. La solidarité mise en place n'a occasionné qu'une perte très très faible du salaire, je crois que c'est de l'ordre d'un jour par mois. D'autres facteurs, en fait, expliquent les conflits internes aux familles. Le premier, à mon sens l'essentiel, tient au refus des hommes de perdre la maîtrise de la vie de leur épouse. Une femme qui travaille est une femme qui s'émancipe et qui gagne plus qu'une indépendance financière. La crainte des hommes de voir leur épouse vivre leur vie comme elles l'entendent est renforcée par l'oisiveté et la liberté que la grève leur octroie. Comment occupe-t-elle ce temps libéré? Et surtout, avec qui le passe-t-elle? C'est pourquoi l'historien Xavier Vignat, dans son Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, écrit que les grèves féminines sont souvent hantées par la question de la sexualité. Autre raison, la femme travaille, rapporte de l'argent au foyer, mais son activité professionnelle n'a toujours pas la même importance symbolique que celle du père de famille. Il demeure un salaire d'appoint. Or, nous sommes à une période charnière de l'histoire, notamment pour les couples qui, c'est souvent le cas chez les dactylocodeuses, se composent d'un ouvrier soumis à la conjoncture économique, donc au risque de chômage, et d'une fonctionnaire qui en est épargnée. Avec la crise économique qui touche avec violence l'industrie nationale et jette au chômage des centaines de milliers d'ouvriers, de la métallurgie, de la navale, de la sidérurgie, le salaire dit d'appoint cesse de l'être puisqu'il devient bientôt la seule ressource financière pérenne du couple. Se plaindre et revendiquer alors qu'on jouit d'un statut protecteur peut sembler à certains injustifié. À ce sentiment peut s'ajouter un certain dédain pour le fonctionnariat et les images négatives qu'il charrie bien souvent. Un travail de bureau peu harassant, peu de contraintes en termes de productivité, une activité qui se déroule à l'abri des intempéries, et puis des avantages, des privilèges liés au statut, etc. Vous connaissez le discours. Bref, le fonctionnaire, celui qui œuvre bien sûr dans les bureaux, pas le postier, le cheminot ou le gazier, eh bien le fonctionnaire fait figure de privilégié. Selon les témoins rencontrés, nombreux furent les couples à se déchirer durant le conflit et des séparations s'ensuivirent. Laurence Leplat signale que les trois meneuses de la lutte ont divorcé. Elle-même a quitté son mari, qui était un employé de banque, marqué à droite, qui ne supportait pas qu'elle adhère à la CGT en 81 et encore moins qu'elle souhaite y prendre des responsabilités syndicales. Alors on ne peut évidemment attribuer tous les divorces au conflit social et d'ailleurs une enquête réalisée par l'INSEE souligne une hausse continue des divorces à partir du début des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Outre le climat général post-68 qui favorise la remise en question par les dominés de l'ordre établi, la crise économique et le chômage de masse ont joué un rôle dans l'éclatement des familles. Alors ce conflit social long a marqué les dactylocodeuses. La lutte les a fait grandir, comprendre qu'elles valaient bien plus que l'image qu'on leur envoyait. Comme le dit Jean-Marie Pernaud, certaines se sont vraiment découvertes pendant la grève. Mais qu'en est-il des syndicalistes? Quelle place tient ce long conflit social dans la mémoire des militants qui s'y impliquèrent? Pour l'équipe syndicale CGT, ce mouvement a été très important. Il a soudé le bureau syndical et il a surtout validé une conception des conflits où les syndicalistes proposent, mais où ce sont les grévistes qui décident et prennent leur lutte en main. D'autres sont plus pondérés. Pour Jean-Pierre Bonneau, je cite, « On a vécu cette lutte comme un épisode normal, on lutte et on passe à autre chose. » Et, ajoute-t-il, « C'était pas l'IP non plus. » Souvenez-vous, la lutte à Besançon. Jean-Luc Heller rappelle que ce type de conflit était notre pain quotidien et n'avait rien d'extraordinaire pour des syndicalistes politisés à l'extrême-gauche. Bonneau et Heller nous rappellent que ce conflit, d'ailleurs, n'est, c'est vrai, pas entré au panthéon des conflits sociaux de l'histoire sociale de la Loire-Atlantique. Il n'a concerné qu'une cinquantaine de femmes à Nantes, travaillant qui plus est dans des bureaux. Le conflit qui secoura l'entreprise de confection Chantel, hein, à la fin de l'année 1981, a marqué bien davantage la mémoire locale. Ce n'est que rétrospectivement que cette grève est devenue importante aux yeux de certains, et notamment de Jean-Marie Pernaud, qui parle à son sujet d'expériences syndicales extraordinaires et de moments fondamentaux dans son propre cursus syndical. En 1983, il est l'auteur d'un article sur le conflit nantais intitulé « Le travail à l'écran, la grève des dactylocodeuses de l'INSEE à Nantes », un article qui paraît dans les colonnes d'une revue d'extrême gauche qui s'appelle « Critique de l'économie politique ». La grève porte des enjeux importants car elle touche au début de l'informatique dans les entreprises qui va bouleverser en fait les façons de travailler. Jean-Marie Pernaud se souvient qu'avant l'éclatement du conflit nantais, la CFDT de l'INSEE était en pleine réflexion sur la façon d'aborder ces mutations technologiques. En effet, depuis 1975, des ateliers dits Colibri, c'est un acronyme de codification en ligne des bulletins du recensement des individus, eh bien des ateliers dits Colibri se sont mis en place au sein de l'INSEE. 500 opératrices travaillent 5 heures par jour sur des terminaux écran-clavier. Et l'expérience, en fait, n'est guère concluante. Les opératrices se plaignent de leurs nouvelles conditions de travail et en travaillant avec une équipe d'ergonomes du CNAM, les syndicalistes comprennent que les problèmes vont au-delà de la couleur des écrans ou de la nécessité d'installer des stores pour tamiser la lumière. C'est bien le travail lui-même, l'accroissement de la charge mentale, l'asservissement à la machine, l'intensité du travail, c'est bien le travail lui-même qui est questionné. Ce qu'on appelle l'informatique conversationnelle recompose en effet, sur un même poste de travail, un procès de travail qui était éclaté préalablement. Un seul agent prend en charge la totalité des missions. Gain de productivité évidemment pour l'INSEE, qui n'est plus obligé d'embaucher massivement du personnel intérimaire pour remplir ses missions, mais évidemment, stress et perturbation pour les opératrices à qui l'on demande d'apprendre sur le tas et d'être performantes tout de suite. C'est dans ce contexte, donc, qu'est intervenu le conflit nantais. Et comme dit précédemment, les dactylocodeuses n'entendent pas se contenter d'un système Nixdorf revu et corrigé. Elles revendiquent le droit à un travail non abrutissant, varié, voire épanouissant. Comme l'écrit Jean-Marie Pernaud en 83, aborder les problèmes informatiques en se limitant à l'environnement matériel du poste de travail ne serait rien d'autre qu'une négociation à la marge d'un moindre coût pour la santé des travailleurs, mais ne pèserait en rien sur les enjeux véritables de l'informatisation. Le conflit nantais, en fait, repose une question fondamentale qui n'a rien perdu de sa pertinence. L'individu au travail est-il ou non au service de la machine ? Autre élément, les relations syndicat-direction. Au sein du ministère de l'Économie et des Finances, l'INSEE ne pèse pas grand-chose. Et c'est peut-être pour cela qu'elle jouit d'une certaine autonomie d'action. Et dans ce cadre, nous disent certains syndicalistes, un combat fratricide entre la direction et les syndicats pourrait être désastreux pour les deux parties. Humiliée, la direction de l'INSEE serait alors peut-être reprise en main par le ministère et perdrait ainsi ses marges de manœuvre et sa culture singulière. Les syndicats, de leur côté, en changeant d'interlocuteur, perdraient également une partie de leur capacité de peser sur les décisions. Les syndicats n'ont donc aucun intérêt à humilier ou à affaiblir grandement la direction de l'INSEE. Cette dernière a conscience qu'elle doit évoluer dans les relations professionnelles. Et à ce titre, le conflit nantais, l'a fait grandir. Comme le dit Jean-Luc Heller, la direction se composait d'ingénieurs, de statisticiens, enfermés dans une approche technicienne et comptable des problèmes, mais la plupart étaient quand même plutôt ouverts d'esprit. Et il en veut pour preuve que le haut encadrement votait majoritairement pour la liste CGT-CFDT aux élections professionnelles. La pugnacité des dactylocodeuses leur a fait comprendre en fait qu'un problème technique n'est jamais seulement un problème technique. Il met en jeu d'autres dimensions, plus psychologiques ou politiques. Une situation à laquelle la direction n'était absolument pas préparée. C'est pourquoi, explique là encore Jean-Marie Pernaud, la direction est passée d'une position de fermeté totale à la reddition. De son côté, Francis Judas rappelle cependant la permanence dans l'institution du mépris social des cadres dirigeants pour les agents de catégorie B et C lors des conflits sociaux ultérieurs. Pour lui, ce manque de respect vis-à-vis des catégories C ou B est resté une sorte de constante, ce qui explique la brutalité permanente des conflits qui vont secouer l'institution. Et puis il ajoute que l'INSEE est la seule direction des finances à ne pas avoir une politique de requalification statutaire forte. Dernier point à souligner, grâce ou à cause des dactylocodeuses, la direction de l'INSEE a pris conscience que pour prendre le pouls de l'Institut, il lui fallait davantage discuter avec les syndicats plutôt qu'avec les directeurs régionaux. En conséquence, durant les années qui ont suivi ce conflit, afin d'éviter de nouveaux conflits sociaux forts autour des mutations technologiques et qui impacteraient au quotidien le travail des agents, eh bien la direction a cessé de passer en force, a fait en sorte d'informer en amont les organisations syndicales et donc de prévenir en fait de possibles conflits. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce conflit très très peu connu des dactylocodeuses de l'INSEE et qui se révèle assez passionnant et sur lequel il y a en fait, à part l'article de Jean-Marie, il n'y a pas eu d'études de fait. Donc le travail que je viens de vous lire, qu'on a réalisé avec Manuela, c'est un work in progress. Ça veut dire qu'à la fois, on a travaillé sur les archives et avec une dizaine d'entretiens, mais on souhaite ardemment que des dactylocodeuses, qui sont peut-être présentes dans cette salle, viennent à nous, et alors on pourrait enrichir par leur point de vue, par leur témoignage, parce que ça nous semble aussi important de muscler, entre guillemets, l'importance qu'a eu ce conflit, peut-être, dans leur trajectoire individuelle. Voilà ce que je voulais vous dire.
Personnes qui souhaitent poser des questions ou apporter leur témoignage, je peux faire circuler un micro. N'hésitez pas.
Au départ, vous disiez seulement que 3 personnes s'étaient syndiquées. Donc très rapidement, les autres se sont décidées à syndiquer.
Certaines. Francis pourrait le dire, puisqu'il était là-bas à l'INSEE. Il y a une poignée, certainement, peut-être une dizaine, qui ont fait le chemin. Ouais, mais pas plus. Par contre, ce qu'elles ont gagné, c'est une sorte de respect d'elles-mêmes, quoi. Ils n'en ont pas fait des militantes révolutionnaires, etc. Mais par contre, elles ont compris, à travers ce conflit, qu'elles avaient le droit à la parole, qu'elles pouvaient agir et qu'elles pouvaient gagner, collectivement. Et donc ça, c'est une force. Voilà. Mais ce n'est pas, en effet, ça n'a pas transformé leur vie et ça n'en a pas fait des militantes de premier plan. Jean-Marie, est-ce que tu as envie d'intervenir sur... J'ai dû dire des bêtises, donc même pas. C'est décevant. Non, mais pardon, toi, du point de vue de... Parce qu'il y a Francis, donc lui, qui était présent localement, et toi, c'était du point de vue national. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux regards sur le conflit, quoi.
Oui, d'abord, merci de ce résumé qui m'a un peu ému. D'ailleurs, ça m'a ramené quelques années en arrière. Et tu penses que tu as très bien senti... Enfin, vous avez très bien senti... tout ce qui s'était joué à ce moment-là. Alors nous, on suivait au niveau national ça parce que ça a été dit à la fin, ça s'inscrit dans l'histoire de l'informatisation à l'INSEE, qui est une vieille histoire, puisque c'est quand même une des premières administrations à s'être massivement informatisée. Donc c'était un moment de transition pour la saisie. Il y avait eu ce qui a été évoqué à la fin, c'est-à-dire le dépouillement du recensement Colibri en 75, donc avait été la première grande expérimentation de saisie interactive. Donc on changeait de modèle par rapport à la saisie de masse un peu à l'aveugle qu'il y avait avant, et c'était le travail que faisaient les dactylocodeuses de Nantes. Et en perspective, il y avait donc le futur Colibri du recensement suivant, et c'est ça qui interrogeait qui aussi pour la direction, ce qui se passait à Nantes était un enjeu considérable, parce que derrière il y avait le dépouillement du recensement à venir. Ils étaient très inquiets parce que ça avait assez mal fini le dépouillement du recensement de 75, au point qu'ils avaient accepté la proposition qu'on leur avait faite de faire intervenir une équipe du CNAM, le cabinet de Wissner, donc des ergonomes connus aussi pour leur approche critique des questions du travail. Donc la direction était en recherche. Nous aussi, d'ailleurs, parce qu'on était peu implantés dans les ateliers de saisie, globalement, comme ça a été dit pour celui de Nantes. Mais c'était vrai pour les autres également. Enfin, on sentait qu'il y avait des enjeux importants. Et donc, nous, ce conflit arrive juste à ce moment-là. Et on a appris énormément de choses. Alors, ce qu'on commençait à pressentir, ce qui a été rappelé, c'est-à-dire que, en fait, le conflit part sur des écrans. Mais on a vu très vite, parce que, nous, on était à Paris, mais tous les jours, moi, j'avais Jean-Pierre au téléphone, et puis un autre copain qui était à Bordeaux, donc on suivait ça, évidemment, de très, très près. Et très vite, on a vu que, et les filles, progressivement, d'ailleurs, l'ont vu elles-mêmes, parce que la façon dont elles ont produit les revendications, je dis les filles, entre guillemets, c'est comme ça qu'elles s'appelaient elles-mêmes. C'est pour ça que je me suis toujours permis d'utiliser ça. Et elles ont modifié un peu leurs propres revendications. Hein, au début, c'était trois quarts d'heure de pause. Après, à la réflexion, c'est venu à... Mais ça, Francis a dû suivre ça au plus près que moi. Mais moi, j'en avais cette écho-là. C'est-à-dire, après, ça devenait 10 minutes par heure. Et après, elles ont saisi au bon cette proposition que la direction a faite, un peu pour sortir de la crise, parce que ça a été vraiment la grande reddition à la fin, l'idée d'un travail d'une heure hors des écrans. Hein. Et donc, ce qu'on a bien vu, et c'est en fait derrière cette question de l'écran, c'était vraiment la question du travail, du rapport à la machine, qui utilise qui, hein, parce que c'est la question fondamentale dans l'informatique. Hein, et je crois que ça reste, hélas, aujourd'hui encore un vrai sujet. Et donc, pour nous, on a appris beaucoup de choses qu'on a réinvesties par la suite. Alors, l'article en fait pas état parce qu'on n'avait pas encore terminé ça. Mais après, du coup, on a été visiter tous les ateliers on l'a fait pendant le conflit, hein, avec les dactylocodeuses. On a été faire l'information dans les autres établissements de l'INSEE. Je me souviens d'avoir été à Reims, à Nancy. Enfin, on faisait des assemblées générales, hein, pour informer le personnel, parce qu'on savait bien ce qui a été dit. C'est que, bon, tout le monde comprenait pas bien ce qui se passait. Et puis Nantes, c'était quand même très spécifique. Hein, c'était pas les ateliers de saisie qu'ils avaient, eux. C'était quand même autre chose. Donc on a fait énormément d'explications. Et après le conflit, on a lancé un grand questionnaire unitaire, hein, CGT-CFDT, comme on avait l'habitude de travailler, pour tous les ateliers de saisie, les autres de France. Et on a refait à nouveau une tournée pour aller discuter. On a eu ce questionnaire, il y avait 60 questions, ils ont été remplis, bon, imparfaitement, mais après on est reparti à l'assaut de la direction, avec fort de notre questionnaire qu'on avait d'ailleurs dépouillé sur les ordinateurs du CNE de Nantes. Et on a fait un comité technique paritaire, c'était les lieux où on rencontrait la direction, et on l'a commencé à 3h de l'après-midi, on a fini à 9h le soir. Et quand, alors c'était Edmond Malinvaux qui était le directeur général de l'INSEE, Edmond Malinvaux, nobélisable, etc., bon, qui... Ils connaissaient rien du travail des agents. Mais autour de cette table, les CTP à l'INSEE, c'était quelque chose. Parce que de l'autre côté de la table, on n'avait que des polytechniciens. Dans la direction, c'était que des... Et nous, alors faut dire qu'on avait aussi quelques polytechniciens dans la représentation syndicale. C'était un lieu un peu particulier, l'INSEE. Mais enfin, on a eu un débat qui avait un certain niveau. Et quand on a sorti nos listings, ils ont commencé à nous regarder de travers, et qu'on leur a dit, ben, nous, on veut discuter des grilles de saisie, de comment vous fabriquez les logiciels, parce que, c'est le tour qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait appris dans le conflit de Nantes. C'est pas seulement une question d'écran, c'est aussi le type de recours qu'on a à l'écran, quelle est l'adéquation entre les documents papier, la grille, comment elle est construite, est-ce que ce qu'on a appelé plus tard l'ergonomie logicielle, à l'époque, c'était très balbutiant comme. Et on a réussi à obtenir un certain nombre de choses. Et notamment qu'il y a une plateforme qui s'était tenue à Bordeaux pour où des représentantes des dactylocodeuses iraient discuter avec les programmeurs sur la façon de concevoir le programme de saisie. Bon, on avait une direction. C'est vrai, l'appréciation de Jean-Luc que tu rapportais était juste. Et ils n'ont rien compris à ce qui se passait, sauf que ce n'étaient pas des imbéciles. Bon. Et donc, ils ont quand même mis un peu d'eau dans leur vin. Je crois qu'après. C'est ce que je mets dans la fin de mon papier, je l'ai relu ce matin parce que il y a quelques temps que j'avais pas regardé cet article, mais je crois que la conclusion, c'était, il y avait plein de points d'interrogation, mais je crois que c'était assez juste, c'est-à-dire que le conflit a fait changer les rapports de force scientifiques au sein de l'Institut. Parce que l'enjeu qu'il y avait sur la saisie conversationnelle, c'était de l'étendre ailleurs, évidemment. Nantes se présentait un peu comme un laboratoire, mais après, l'idée, c'était de passer toutes les enquêtes, tous les ateliers de saisie à ce modèle-là. Et qu'en fait, ce qui s'était passé à travers ce conflit les a conduits à changer un peu d'attitude et d'investir sur des projets à plus long terme où, en fait, la partie conversationnelle serait intégrée par la machine. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de conversation, hein, et que les arbitrages à faire, ils étaient rendus à des machines avec des logiciels plus sophistiqués, des bases de données un peu plus justes, parce qu'il y a toujours des bugs. Aujourd'hui, on dirait c'est un peu plus d'intelligence artificielle au fond, hein, c'est qui était et donc je pense que ça a freiné le conflit, a eu des effets massifs sur la façon dont l'INSEE concevait les générations à venir de son informatisation. Et nous, on était au milieu de ça. Ça a été une période absolument passionnante pour les syndicalistes, outre découvrir quand même une lutte comme ça. C'était assez extraordinaire de voir l'engagement avec les limites qui ont été rappelées. Hein. Mais ce mouvement des femmes, Il y avait plein de luttes de femmes à l'époque, hein, c'était pas. Les tensions avec une représentation syndicale plutôt masculine, mais quand même, bon, il n'y avait pas loin de là que des brutes et des machos. Je pense que les équipes syndicales à Nantes étaient quand même faisaient très attention aussi à ce facteur-là. Moi, je me souviens d'une conférence de presse qu'on a fait à Paris avec des représentantes des dactylocodeuses et où il y avait des groupes féministes qui venaient les voir en leur disant « Mais ça vous gêne pas là, d'avoir que des mecs au niveau national des syndicats tout ?» Alors elles disaient « Oui, bon, bah... » Bon, je pense que la partie masculine a... Bon, mais c'était le reflet, c'était comme ça, les syndicats étaient comme ça à cette époque-là. Ils se sont féminisés beaucoup après, d'ailleurs, les deux syndicats. Aujourd'hui, ils sont dirigés essentiellement par des femmes, surtout la CGT et INSEE, la CFDT, elle est un peu tombée dans le trou. Mais donc c'est vraiment un moment qui a été absolument passionnant. Et je crois que dans la vie... Je terminerai par une anecdote. Moi, je suis resté à l'INSEE jusqu'en 85. Et après, je suis parti à la Fédération, puisque c'est les trajectoires syndicales. De temps en temps, les responsables syndicaux montent d'un cran dans les pyramides internes aux orientations syndicales. Et donc je suis parti comme permanent, ce dont j'avais pas très envie. On n'avait pas cette habitude à l'INSEE. Et apprenant que je partais, le secrétaire général, Raymond Lévy-Brulle, me fait convoquer par sa secrétaire pour avoir une discussion libre. Il m'a dit « Ah, vous partez. Bon, bah écoutez, bonne chance et tout. » Mais il me dit quand même « Vous nous avez posé des gros problèmes. » Alors le « vous » était collectif, hein, c'était pas moi en particulier. Donc on a évoqué un certain nombre de conflits, et évidemment celui-là. Il m'a dit « Nous n'avons pas compris grand-chose, je dois reconnaître. » Et c'est vrai que... Bon, on a appris aussi à un peu écouter les syndicats nationaux, parce que ce qui remonte de nos directions générales, de nos directions régionales, c'est souvent ce que nos directeurs estiment que l'ADG aime entendre. Donc il y a beaucoup de choses qui passent sous nos radars. Bon, ça, on peut discuter, parce que bon, je pense que si on ne faisait pas tout remonter, c'est qu'aussi ils aimaient bien entendre ça. Hein. Mais bon, ça a été vraiment un conflit qui a secoué la maison en profondeur et qui a fait réfléchir beaucoup de gens de haut en bas de l'INSEE. Malinvo, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, en dessous, il y en a beaucoup qui ont appris à cette occasion.
Francis, tu veux ajouter ?
Oui. plusieurs choses. D'une part, c'est émouvant, ouais. D'y repenser. C'est ce déclenchement de la grève et ensuite cette fermeté extraordinaire de ce groupe de femmes qui se sont mis en mouvement, ça a été extrêmement impressionnant pour tous les représentants du personnel qui étaient à l'époque peu critiques ou un peu moqueurs par rapport à cette saisie qui parlait à personne. Certes, pas de leur faute, mais la réalité, c'était ça, cet isolement, leur manière de travailler qui était bien en arrière des manières de travailler de tous les autres. Il y avait quand même, pas un mépris, mais on n'en était quand même pas très loin. Et c'était pas un mépris forcément d'hommes pour des femmes, c'était aussi des femmes pour d'autres femmes, parce qu'ils estimaient que ces personnes faisaient un travail presque dégradant. Il y avait quand même ce sentiment-là. Et la maturité de cette grève, il y avait un vote tous les jours. Tous les jours, il y avait une discussion, il y avait des propositions. Il y avait des femmes qui intervenaient pour dire qu'elles n'en pouvaient plus, qu'elles ne pouvaient pas tenir. Et donc, on discutait avec elles, on essayait de trouver des solutions. Il y a eu des arrêts maladie, etc. Mais on leur disait « mais c'est vous qui décidez ». Et le vote, à chaque fois, il était unanime. Et il n'était pas unanime parce qu'elles avaient peur de nous, parce que on s'est fait, les représentants du personnel, on s'est fait envoyer sur les roses plein de fois pour des actions proposées dont elles ne voulaient pas. Voilà. Donc, quand on a vécu ça, on sait ce que c'est un mouvement social et on sait ce que c'est un mouvement social dirigé, de fait, par cette espèce de chaleur commune qui permet d'atteindre des objectifs qu'on n'imaginait même pas au départ. Et je pense que c'est vrai que les copines, ce qu'elles disaient, ça a changé nos vies, quoi. Mais ça nous a changé aussi ceux qui n'étaient pas à la saisie et qui participaient à ce mouvement. Deuxième chose, il y a eu un mouvement de solidarité, pas à l'INSEE, pas très fort à l'INSEE, à part les, je dirais, les plus politisés, etc., à cause de ce mépris social stupide qui existait et qui a perduré malheureusement après. Mais à l'extérieur, le succès des collectes, on a eu des dizaines de dactylocodeuses de toute la Bretagne qui ont envoyé des sous parce qu'elles étaient concernées, elles étaient confrontées au même type d'évolution et en fait, elles savaient que ces dactylocodeuses se battaient pour elles aussi. On a quand même réussi à réunir de quoi payer pendant 3 mois intégralement 50 personnes. Bon, vous pouvez imaginer ce que ça représente, 50 salaires, et on les a atteints, je dirais, par des dizaines de milliers de dons, de petits groupes. On recevait l'atelier de saisie de Saint-Brieuc, de telle entreprise qui envoyait des sous, etc. Et les collectes également, tu parlais tout à l'heure des réactions des hommes qui étaient quelquefois un peu, qui se questionnaient. Mais à la porte des boîtes, les gens ont donné et donné de l'argent en solidarité avec des fonctionnaires. C'est quand même pas banal dans le paysage syndical qui peut exister. Puis la troisième chose, là où j'ai une appréciation extrêmement sévère pour la direction de l'INSEE, c'est en fait cette grève, elle a permis de préparer la sortie des dactylocodeuses de leurs ateliers en y introduisant d'autres travaux qui leur ont permis de se familiariser avec les autres travaux de la maison. Et le jour où, brutalement, on a dit « la saisie de masse, c'est terminé, on n'a plus besoin de vous », bon, elles avaient toutes été formées sur d'autres travaux et donc la sortie de la saisie a été possible, alors que en gros, il y avait quand même toujours cette perdurance de dire « enfin, ces filles de la saisie, elles sont incapables de faire le travail des autres salariés de l'INSEE. Donc, bon, et ça a été une réussite. Elles ont conservé leur prime de qualification jusqu'à la fin de leur carrière, ce qui était aussi l'objet d'un combat. Bon, c'est une lutte qui a changé la vie de beaucoup de gens, finalement. Et bon, il fallait la faire.
Il y a une question, y a-t-il des dactylocodeuses dans cette salle ?
Parmi vous, il y a des gens qui ont travaillé à l'INSEE, qui connaissaient l'atelier de saisie, qui ont entendu parler de ce conflit, ou c'est vraiment le magnifique titre qui vous a attiré ce soir ?
D'accord.
En fait, c'est 64 jours de grève. Bon, moi, c'est vrai, je n'étais pas pour du tout. Et tous les matins, j'arrivais et je disais, non, moi, je veux aller travailler.
Mais vous étiez dactylocodeuse ?
Oui.
D'accord, vous étiez dans le...
Oui.
D'accord. Sur la photo en plus.
En plus. Pas contente du tout.
C'est vrai ? Ah ben d'accord.
Mais bon, j'assume. J'assume.
Est-ce que vous correspondiez au profil issu des boîtes privées, un CAP, etc. ?
Alors, issu de boîtes privées...
Enfin, de l'enseignement libre. Voilà.
Oui, mais j'étais pas rentrée... Bon, je sais que maman travaillait aux affaires étrangères, et donc j'étais rentrée, j'avais passé l'examen, pareil, quoi, pas par l'école. Mais en fait, moi, j'étais là, je travaillais, j'avais une éducation, on travaille, je me posais pas la question, quoi. Je peux pas dire que j'étais fatiguée, j'ai suivi parce que... J'avoue que j'ai été un peu obligée, quoi.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
24 ans, 25 ans, 25, 26, oui.
Et donc, vous êtes sur quelle photo ?
La première.
Donc, c'est celle-ci. Celle-ci, alors, non ?
Ah, mais non, là, on ne voit
c'est
pas.
C'est sur le dépliant, là, le
C'est sur le dépliant,
le
oui.
Le programme.
Un petit programme. Ah. Mais bon, après, j'assume, Mais moi, je ne me voyais pas, je ne pouvais pas aller voir mon médecin en disant, dans ma famille, on n'avait pas été habitués comme ça, aller voir un médecin en disant, je ne veux pas faire grève et je vais mettre en maladie.
Et est-ce que vous étiez là le 7 janvier, alors ?
Oh, Je ne sais pas.
Non, mais c'est une question qu'on en a discuté plein de fois avec Francis. Quand on interviewe des dactylocolleuses, elles sont capables de nous raconter très bien, parfaitement, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah, mais alors, cette journée du 7 janvier où, entre guillemets, on se réunit, on décide, c'est bon, il y en a marre, on fait grève, elles sont incapables. C'est le trou noir. Par contre, elles se souviennent de ce qu'elles ont fait le 8. Ça, c'est terrible quand même.
Ah non, alors là, moi non plus. J'étais tellement traumatisée le matin en arrivant que c'est tout ce que je me souviens. Mais enfin, il y a une chose, ça m'a guérie de toutes les grèves de ma vie. Hein.
C'est vrai ? Ça a été contre. Ah,
ouais. Il ne fallait pas m'en parler. Hein. Je pense que Francis doit savoir. Mais dès qu'il y avait une grève, ah non, ça, j'ai même pas fait une heure de grève, rien.
Bon, et Nixdorf, l'appréciation de Nixdorf que vous aviez, c'était celle de vos collègues ou... Vous trouviez ça plus fatigant, plus... Quelle était votre perception ?
Non, je ne peux pas dire que j'étais fatiguée, non. J'étais jeune. Quand on est jeune, on ne se fatigue quand même pas comme ça. Je ne sais pas. Après, bon, ben...
Non. C'est intéressant parce que ça fait... Ça...
Oui. Dans le micro. Prenez le micro, c'est
bon. Oui, non, j'accompagne, donc on n'est pas peut-être tout à fait de la même génération. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se demande finalement... comment ça peut évoluer, finalement? On ne sait jamais. Finalement, effectivement, elles arrivaient. Beaucoup s'ennuyaient aussi. Hein. Il y a un temps de latence. On ne sait pas comment ça prend fort. Et finalement, effectivement, vous n'avez pas forcément parlé de l'hégémonie. Est-ce que finalement, elles étaient toutes... Le groupe était tout complètement à fond. Vous voyez?
Ça, les archives le disent pas. On sait
qu'il
y avait 48...
C'est intéressant. Je ne sais pas, monsieur, vous aviez... Parce que je pense que chacun, finalement, a son regard. Hein.
Bien sûr.
Puis après, il y a sa propre histoire personnelle, il y a sa propre fonction. Tu réponds ? Donc, c'est intéressant.
Non, mais il est probablement... Enfin, parmi les monitrices, par exemple, qui se sont mises dans une position de neutralité que la direction a acceptée, il est clair qu'il y avait des gens qui voulaient faire grève. Qui n'ont pas fait grève parce qu'elles étaient monitrices et parce qu'elles se sont trouvées coincées par leur poste. Et ça voulait dire être quasiment sûr d'être virées. Bon, donc il y a eu forcément, tu le dis très bien, des gens qui sans doute, au fond d'eux-mêmes, se sont trouvés entraînés dans ce mouvement. Mais il y a quand même des filles qui ont travaillé sans qu'il n'y ait jamais eu... Même après 63 jours de grève, il n'y a jamais eu de tension particulière avec celles qui ont travaillé. Et voilà, donc chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et on a été extrêmement vigilants à ça, parce que ça nous paraissait important. Il y avait, je crois, 6 ou 7 filles qui travaillaient. Hein ?
Pas trop libre.
Pardon ?
On n'était pas trop libre de faire ce...
Bah, tu ne t'es pas senti peut-être libre, mais en tout cas, les 6 ou 7 qui ont travaillé, ainsi que les monitrices qui, de fait, se trouvaient à rien faire, mais étaient présentes et qui n'ont pas fait grève un seul jour, il n'y a jamais eu la moindre tension ni la moindre pression sur elles. Hein. Peut-être entre personnes de l'atelier, mais on a veillé au niveau... et on l'a toujours fait à l'INSEE, c'est pour ça que... nous, on tenait à ce que les gens se déterminent librement. Et moi, c'est vrai que je découvre aujourd'hui que tu ne souhaitais pas faire grève, mais ça me navre, hein, vraiment, parce que s'il y avait eu 8 personnes au lieu de 7 qui ne faisaient pas grève, ça n'aurait posé aucun souci. Hein. C'est, de toute façon, à partir du moment où il y avait une quarantaine de grévistes, c'était la grève qui dérangeait, je dirais, pendant les 6 premières semaines. C'était plus le mouvement social qui dérangeait la direction de l'INSEE, ce désordre qui, en plus, débordait dans la presse, plutôt que la perte d'un travail dont... ils espéraient qu'il serait résorbé relativement vite, puisque c'est de la saisie de masse. À la limite, ils auraient pu sous-traiter à l'époque une partie importante du travail. Ils ne l'ont pas fait pour pas accentuer les provocations. Enfin, ils ne l'ont pas fait. On n'en sait vraiment rien, en fait. Hein. Mais en... hein ? Oui, c'est ça. Ils ont sous-traité le fichier électoral. Mais voilà. Donc, je crois... Enfin, moi, c'est vrai que je regrette énormément que... Je dis qu'aujourd'hui, que effectivement, tu as ressenti une pression morale à participer au mouvement. Mais voilà.
Mais on a connu tous les écrans verts, les écritures oranges, les trucs horribles, hein. Ouais. Les premiers ordinateurs, non, ça c'était...
Juste là-dessus, Nixdorf nous a pas dit merci, mais pas loin, les ingénieurs, parce qu'il y a eu un ingénieur en permanence pendant les 3 mois de grève, et quelques mois après. Et il est venu nous dire merci. Hein. Enfin, il est venu nous dire, bon, grâce à vous, on sait ce qu'il faut pas faire, et ils ont amélioré considérablement... la méthode d'acquisition des données qui avait été choisie à ce moment-là. Et ça a été pour eux une révolution. Hein. C'est des ingénieurs qui venaient d'Allemagne pour comprendre ce qui était en train de se passer. Ils l'ont analysé et la génération suivante de matériel était très, très différente. En fait.
Monsieur, vous voulez...
Est-ce que vous êtes en mesure de dire si les résultats obtenus par les dactylocodeuses de l'INSEE étaient profitables aux autres ateliers de dactylocodeuses qui n'étaient pas forcément fonctionnaires?
Bah oui, ça l'a été. Alors, les autres ateliers de saisie, ils étaient dans des situations plus favorables déjà. Moins d'encadrement, moins de rendement, moins de ceci, moins de cela. Mais le fait est que, ouais, elles ont ouvert une brèche. C'est-à-dire que, en tout cas, ça a empêché une dégradation possible dans les autres ateliers. Je sais pas, je m'avance peut-être pour Francis, si tu veux répondre.
Ben, la généralisation du nouveau matériel, de fait, a été introduite avec les conditions de travail de l'atelier de saisie de Nantes. Donc, il n'y a pas eu de conflit ailleurs, aussi parce que les 10 minutes de pause par heure de travail ont été introduites dans tous les ateliers qui ont bénéficié de cette modernisation à l'arrivée des Nixdorf. Quoi.
Et tiens, bah garde le micro, Francis, parce qu'il est dit hein, que dans l'accord qui se fait en mars, qu'il y a des choses qui seront revues quelques temps plus tard, quelques mois, je crois. D'accord, ok. Il n'y a jamais eu de renégociation ou de rediscussion.
Non.
Ne pas perdre la face, quoi.
Oui, mais il faut reconnaître qu'ils se sont... Enfin, si on reprend les tracts syndicaux de l'époque, ils se sont cruellement vengés sur les primes annuelles des dactylocodeuses. Enfin, c'est les 2 années qui ont suivi, ça a été quand même... en gros, vous nous en avez fait baver, mais on va se venger. Hein. Il y a eu quand même... bon, en particulier pour les meneuses, une mise à l'index, il a fallu qu'on intervienne de nombreuses fois pour faire cesser cet esprit revanchard, d'autant que Pierre Duchesne, qui était le chef de l'informatique, lui, il avait compris ce que jouait en termes de dignité humaine, et quand il est parti... Il a expliqué à son pot de départ qu'il remerciait les dactylocodeuses qui lui avaient appris beaucoup de choses sur la vie. Et il a dit ça devant le directeur, des chefs de service et les personnels. Et ça a été un moment un peu d'émotion pour tout le monde, tous ceux qui ont assisté à ce mouvement.
Eh bien, merci.